Je dois préciser que malgré l'admiration mêlée de ressentiments que Diego ressentait pour son père et qu'il prenait soin de masquer, et l'affection silencieuse que Don Jaime portait depuis toujours à son fils, un mur séparait les deux hommes. Tous deux s'étaient enfermés des années durant dans une pathétique impossibilité de se parler, n'essayant plus depuis longtemps de la briser, n'échangeant pas plus de trois mots dans une journée, pris dans une incompréhension réciproque qui leur était devenue une habitude aussi fermement établie que celle de se dire bonjour et au revoir. Mais depuis le déclenchement de la guerre, cette incompréhension somme toute banale entre un père et un fils s'était chargée de violence. Et malgré le caractère paisible et nonchalant de Don Jaime, la tension entre les deux hommes était devenue électrique et les passes d'armes fréquentes. L'affrontement muet, qui avait été le leur pendant des années, explosait à présent à propos de tout et de rien, le moindre détail pouvant les faire entrer dans de violentes controverses. Fallait-il, oui ou non, faire confiance au régisseur? Était-il convenable, oui ou non, de se servir de cure-dents à la fin d'un repas? Fallait-il célébrer, oui ou non, le 12 octobre, le jour de la race espagnole? Autant de motifs de contrariété, d'agacement ou de conflit entre les deux hommes, bien que l'un et l'autre eussent l'intuition que les causes véritables de leurs dissentiments se situassent bien ailleurs. Lorsque les conversations à table allaient sur le terrain de la guerre et de la politique à mener pour la gagner, car la guerre, me dit ma mère, était le sujet principal de toutes les discussions. Diego, qui ne concevait pas que l'on pût opter pour un autre égarement que le sien, reprochait à son père de tourner politiquement le dos à son siècle et de tremper encore dans les eaux fangeuses de la vieille Espagne. « Le monde a changé, lui lançait-il avec brusquerie. Il n'est plus celui de votre jeunesse. Vos paysans ne veulent plus qu'on les traite en esclaves, et bientôt ils vous chasseront de vos terres. » Don Jaime secoua la tête. Sa belle-mère et sa tante montraient des visages effarés, et Diego jouissait en secret du plaisir de les provoquer. En écoutant son fils, Don Jaime prenait lentement conscience qu'il vieillissait. Il n'était plus du tout sûr de la validité des idées qu'il avait préconisées à 20 ans, lorsque la politique l'intéressait encore. Jeune bourgeois, frotté de socialisme, il avait professé, pour résumer, un humanisme chic qui avait l'avantage de ne porter nullement atteinte à ses privilèges, puisqu'il consistait à déplorer l'oppression du peuple et le pouvoir inconsidéré de l'argent, sans renoncer pour autant à ce dernier et laissant aux intellectuels et aux poètes le soin d'exprimer à sa place sa très profonde et très sincère déploration de la misère régnante. Aujourd'hui, entre la mollesse des positions progressistes embrassées lorsqu'il était étudiant, le lourd fardeau d'une tradition familiale incarnée par sa sœur Doña Pula et la rigidité doctrinale d'un Staline et des monstruosités qu'elle engendrait, Don Jaime se refusait à choisir. Sa lucidité comme son intelligence butaient contre ces trois postures, la libertaire ne l'effleurant même pas, qui lui semblaient toutes trois pourvoyeuses de tromperies et d'aveuglement. Pire, il pensait qu'être affilié à un dogme, à une cause, à un système, et à ne rien considérer d'autre que ce dogme, que cette cause, que ce système, était le meilleur moyen pour un homme de se faire un jour criminel. Il allait jusque-là, et ce, bien que Diego lui rabâchât que de ne prendre nul parti quand la guerre exigeait que chacun s'engageât, n'était qu'une façon de se défiler typiquement réactionnaire. Une lâcheté de luxe, une démission qu'il habillait du nom avantageux de scepticisme. En dépit donc des reproches virulents de son fils, qui l'affectait sans qu'il se l'avouât, des perfides insinuations de certains, qu'il n'avait d'autres convictions que financières, et des biaises pressions de tous pour qu'il se déclarât clairement d'un côté ou de l'autre, Don Jaime demeura le seul dans le village à ne pas se prononcer pour un camp, et le seul à faire le constat, non sans un serrement de cœur, de la folie des hommes et de la folie de son siècle. Cette position de retrait, qu'il devait tant à sa situation qu'à son caractère, scandalisait Diego. Elle inspirait à ce dernier des mots durs, et ces mots faisaient voler en éclats